crime, une histoire. 36 Quai des Orfèvres.
Jean-Louis Lahaye.
Bonjour et bienvenue dans votre série de l'été. Un crime, une histoire. 36 Quai des Orfèvres. Nous allons nous plonger ensemble dans de grandes affaires criminelles françaises du 19e et du 20e siècle. Je vous emmène à Paris, au 36 Quai des Orfèvres. Je vous emmène à Paris et dans la France entière. Certaines d'entre elles sont des affaires célèbres. Toutes ont défrayé la chronique et portent leur part d'une histoire plus vaste. Bien plus qu'un crime, bien plus qu'un criminel. C'est la société, l'histoire des hommes et des femmes dans leur époque qu'elle raconte. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui nous emmène dans la France de l'Empire, du Second Empire, la France de Napoléon III. Nous sommes en 1858. Voici presque 6 ans que le neveu de Napoléon Ier a pris le pouvoir et a rétabli l'Empire. Nous sommes au cœur de Paris, dans son cœur historique, à 2 pas de Notre-Dame, sur l'île de la Cité. La sûreté parisienne est pas encore installé au 36 Quai des Orfèvres. Mais pas loin de là, dans une rue perpendiculaire, la rue de Jérusalem. C'est une rue qui a disparu à la suite de l'agrandissement du palais de justice. Paris est en train de changer de visage. L'empereur veut en faire une capitale digne de ce nom. Il veut de l'ampleur, de la grandeur et des rues dans lesquelles les fiacres puissent circuler sans peine. Des rues dans lesquelles on puisse aussi assurer l'ordre sans peine. La troupe doit pouvoir se déployer plus facilement et faire feu au besoin. L'empereur a confié son projet au préfet de la Seine, Haussmann. Et sous la direction d'Haussmann, Paris se transforme profondément. Des rues disparaissent, des avenues s'ouvrent, des boulevards. Les rues étroites et les ruelles sinueuses font place peu à peu, surtout sur la rive droite de la Seine, à des avenues larges, bien droite, bordée d'arbres. Oui. Oui, Paris semble entrer dans la modernité. Nous sommes rue de Jérusalem et un homme vient de monter dans un fiacre. Cet homme, c'est le commissaire Claude. Antoine Claude. Monsieur Claude, comme on l'appelle parfois. Claude, c'est le chef de la sûreté parisienne. Disons, le premier policier de Paris. Il a 50 ans. Il est grand. Un peu voûté. Il a déjà eu une vie bien remplie, une vie de dossiers et d'enquêtes. Une vie à traquer le crime, les crimes et les criminels. Il vit dans le soupçon, le commissaire Claude. Oui, de manière presque maladive, sans doute, voire obsessionnelle. La voiture s'éloigne. Elle prend la direction de la rive gauche, par le pont Neuf. La rive gauche est moins touchée par les travaux. C'est encore un Paris de petites rues. Le fiacre du commissaire Claude prend la rue de Nevers. Elle est étroite. Mais 2 fiacres peuvent se croiser si les cochers savent s'y prendre. Enfin, d'habitude. Est-ce son cocher ou le cocher du fiacre qui vient d'en face? Il roule vite et c'est l'accident. Oh, ce n'est pas grave. Les roues se sont accrochées. Il y a un peu de bois brisé et des éclats dans le bois. Mais il y a plus. On dirait les cris. Ou plutôt les plaintes d'un animal. Faible. Le commissaire Claude descend de voiture. Le passager du fiacre voisin en fait de même. C'est un jeune homme élégant, mais vêtu comme un provincial, avec un pardessus comme on n'en voit plus à Paris. Un chapeau. Une sorte de chapeau de forme à large bord. Lui aussi, il l'a entendu. Sous sa voiture. Il découvre un pauvre chien gris, avec une plaie à la cuisse. Le cocher l'a tiré sur le bord de la rue, sans ménagement. Claude sourcille. Le jeune homme s'excuse d'un geste, comme pour dire « Attendez !» Il prend quelque chose dans le fiacre. Il ouvre une trousse et s'agenouille auprès du chien. Il a les gestes rapides d'un homme qui sait ce qu'il fait, sans la moindre émotion. Une impression étrange envahit le commissaire Claude. Il ne le quitte pas des yeux, comme si son visage révélait quelque chose. Une froideur étrange. Le jeune homme vient de renverser une petite fiole dans un coton. Il l'a pressé contre la plaie quelques secondes, peut-être plus. Il se redresse. Il a l'air d'hésiter. Est-ce qu'il a l'air satisfait ou embarrassé? Il a plutôt l'air gêné.
Ça va le calmer, il ne sentira bientôt plus rien. Enfin, je pense que ça vaut mieux.
Le commissaire Claude opine. Mais il y a cette sensation qui ne le quitte pas, et cette pensée. Quel sang-froid!
Ils échangent quelques mots et le jeune provincial lui remet une carte de visite.
Edmond Couty, docteur en médecine.
Alors bon, à ce stade, je comprends. Vous vous dites, pourquoi Jean-Louis Lahaye nous raconte-t-il cette anecdote? Un banal accident entre le fiacre du chef de la sûreté et celui d'un jeune médecin, un provincial.
Eh bien parce que le commissaire Claude s'en souviendra de ce petit incident, de ce petit quelque chose.
Il s'en souvient lorsque, quelques mois plus tard, sa femme lui vante les bienfaits de cette médecine nouvelle, l'homéopathie. Elle lui montre une brochure publiée par un jeune médecin. Son nom?
Edmond Couty.
Oui, mais ce n'est pas tout. Edmond Couty, de la Pommeraye. Bien sûr. Claude repense au petit jeune homme du fiacre et il ne peut s'empêcher de dire à sa femme « Eh bien, voilà un garçon qui conquiert le monde !»
Son épouse n'a pas l'air de comprendre. Elle lui demande ce qu'il y aurait de mal pour un jeune médecin à vouloir se faire connaître. Je pourrais ajouter, pour compléter le commissaire Claude, un garçon qui conquiert le monde et est prêt à tout pour y parvenir. Mais peut-être est-il trop tôt.
Si vous le voulez bien, cheminons jusqu'en juin 1861. Presque 3 ans ont passé. Nous sommes rive droite, rue de Grammont. Le commissaire, Monsieur Claude, est avec son épouse. Ils sont dans le jardin, chez le préfet de police. Pas le préfet de la Seine, hein? Non. Pas le baron Haussmann, non. Chez le préfet de police. Enfin, c'est Madame la préfète qui reçoit, comme il se doit. Et elle reçoit du beau monde. Le maire de Paris est là, bien entendu. Il y a des députés, un ou deux magistrats, des avocats, bien sûr, et il y a au moins un médecin, on dirait. On dirait que ce n'est plus tout à fait un jeune homme. Il porte la moustache. Il a les manières qu'il faut. Il remet au maître d'hôtel un haut de forme et une canne à pommeau en argent. À ses côtés se tiennent une jeune femme et une dame, sans doute la mère de la jeune femme. Le commissaire l'a reconnu. Bien sûr qu'il l'a reconnu. On dirait que tout va bien. Il conquiert Paris. Il songe à ce que lui disait sa femme 2 ans plus tôt. Qu'y aurait-il de mal pour un jeune médecin à vouloir se faire connaître? Et Claude ne peut s'empêcher de le détailler. Il ne le quitte pas des yeux. Au point de le laisser paraître. Et c'est la préfète qui l'interpelle en s'approchant. « Eh bien, mon cher commissaire, laissez-moi vous présenter le comte Couty de la Pommeraye, ainsi que sa jeune fiancée, mademoiselle Dubézy, et sa mère, madame Dubézy. »
Le comte Couty de la Pommeraye, Claude salue. Il s'incline légèrement, comme ça se fait, un petit mouvement, presque imperceptible.
« Est-ce que je n'ai pas déjà eu l'honneur de vous rencontrer, monsieur le comte ?»
Le médecin semble chercher dans sa mémoire, mais rien ne lui vient. Alors, le commissaire croit pouvoir le lui rappeler, en lui rappelant son ancienne position et ce qu'il a réussi à en faire.
« Mais nous avons eu un petit accrochage, nos fiacres. Enfin, si je puis me permettre, j'avais pu admirer votre sang-froid. Vous m'aviez donné votre carte, mais c'était il y a 2 ou 3 ans peut-être, c'était dans une autre vie. » Hein, tout change si vite.
Le comte Couty de la Pommeraye. La préfète en fait encore l'éloge, comme il se doit. Elle en fait le premier médecin de Paris. Bientôt, le premier médecin de Paris. Est-ce qu'elle est un peu grise?
Elle a bu du champagne.
Savez-vous que monsieur le comte de la Pommeraye est homéopathe? La préfète vante les bienfaits de l'homéopathie. Elle n'y comprend rien, mais peu importe. Et puis elle part saluer d'autres convives. Les deux hommes se font la conversation. Enfin, ils essaient. Le commissaire est un taiseux. Il n'aime pas parler pour ne rien dire. Mais il est intéressé. Oh, pas par la conversation, non. Non, il y a quelque chose. Il y a quelque chose d'autre chez ce couti de la Pommeraye qui retient son attention. Il a la méfiance chevillée au corps, Claude. Il n'est guidé que par le soupçon. Mais est-ce qu'il ne voit pas le mal partout, notre commissaire? Non, parce qu'à la fin, c'est exaspérant. Elle est exaspérée, Madame Claude, lorsqu'il parvient encore à lui faire part de ses doutes sur son mariage. Mais enfin, mon cher Antoine, vous croyez vraiment qu'il épouse la petite Dubézy pour son argent? Elle a peut-être un joli patrimoine, mais enfin tout de même. Et puis sa mère veille au grain et elle n'a pas l'air commode, Madame Dubézy. Ils se recroisent, le commissaire Claude, sa femme et les coutis de la Pommeraye. Tout le monde les trouve de bonne compagnie. On le trouve tellement aimable, Edmond. Alors, pourquoi Claude ne parvient-il pas à faire passer cette sensation étrange qu'il ne l'a pas quittée depuis cette première rencontre fortuite? Ce chien. Le médecin était parvenu à mettre fin à ses jours avec tant de facilité. Oui, sans trahir la moindre émotion. En fait, il ne lui revient pas, le docteur Couty de la Pommeraye. Et puis, est-ce qu'il n'a pas, en plus, une façon de vouloir se rapprocher de lui, de le mettre à son tableau de chasse? En tout cas, on dirait. Est-ce que Couty de la Pommeraye ne voudrait pas se lier avec le chef de la sûreté parisienne? Ah, ça peut servir, non? Quelques mois sont passés. Nous voici en septembre 1861. Les Couty de la Pommeraye se sont mariés quelques semaines plus tôt. Notre médecin, Edmond, finit par lui demander un service. « Mon cher commissaire, enfin, vous me permettez de vous appeler Antoine, je suppose. Mon cher Antoine, je crois savoir que la charge de médecin des prisons va bientôt devenir vacante et je ne vous cache pas que je serais très heureux d'offrir mes services, de contribuer à ma façon à l'amélioration du sort de ces misérables. » Couty de la Pommeraye vient de le solliciter. Lui, le chef de la sûreté, pour obtenir la charge de médecin des prisons de Paris. Une charge, disons, utile, mais qui fait de vous, surtout, un homme en vue, et bien vu dans les cercles mondains et les œuvres de charité. Et voilà que Claude apprend la nouvelle, quelques semaines plus tard. Nous sommes à la mi-octobre 1861. La nouvelle, c'est sa femme qui la lui apporte, en revenant chez eux, en fin d'après-midi, et elle est dans une certaine agitation. « Oh mon Dieu, j'ai croisé Clotilde de la Pommeraye à la Société Saint-Thomas. Elle était en grand deuil. C'est tellement subi. Elle était en très bonne santé, apparemment. » Le commissaire Claude ne comprend pas. « Mais qui? De qui parlez-vous? Qui était en très bonne santé ?»« Mais sa mère, la mère Dubézy, la belle-mère d'Edmond. Elle est décédée, il y a 10 jours, m'a-t-elle dit. » Ils se sont mariés au mois d'août, et voilà que la belle-mère de la Pommeraye tombe malade et meurt au début du mois d'octobre. Alors oui, il y pense. Comment ne pas y penser, quand on est policier et qu'on voit combien les passions humaines poussent aux pires extrémités? Mais bon Dieu, il faut qu'il chasse cette pensée. Allons, si tous les ambitieux et les intrigants devaient tuer leur belle-mère... Il sourit, Claude. Il se force un peu. Il faut qu'il en sourie de sa manie de voir le mal partout. Toujours le mal partout. Est-ce qu'il ne voit pas dans la mort de Madame Dubézy l'ombre de son gendre? L'ombre du docteur Couty?
La première.
Un crime, une histoire, 36 Quai des Orfèvres.
Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui dans Un crime, une histoire, 36 Quai des Orfèvres, je vous emmène dans le Paris du Second Empire, en 1861. Le commissaire Claude, le chef de la sûreté parisienne,
à l'esprit occupé par Edmond Couty, un jeune médecin de province qui est en train de conquérir le beau monde. C'est un homme de soupçon, celui qu'on appelle Monsieur Claude. Et quelque chose lui dit que ce jeune ambitieux serait prêt à beaucoup pour servir ses desseins. Et tiens, voilà que sa belle-mère décède brusquement. Le commissaire veille à ne plus parler de ses soupçons à sa femme. Comme tous les soirs, il dîne à deux, dans la salle à manger chauffée par le poêle, éclairée par les bougies. Son épouse le trouve taiseux. Elle le titille gentiment. « Vous songez encore à notre conquérant? Ou vous avez trouvé quelqu'un d'autre pour étancher votre soif? À propos, vous manquez à tous vos devoirs, Antoine. Allons, servez-moi encore un peu de vin. » Sa soif. Sa soif? Non, sa faim de suspect, sans doute. Les ressorts de l'âme humaine, il a appris à les connaître. Il est dans ses pensées, notre commissaire. Puisqu'il ne peut pas s'en empêcher, autant qu'il l'assume, non? Qu'il en parle. Il aura fait son travail, son devoir. Et peut-être qu'il se sentira libéré de quelque chose. En parler, oui, mais pas à sa femme. Le lendemain, nous sommes à la morgue de Paris, sur l'île de la Cité, quai du Marché Neuf, tout près de la rue de Jérusalem. La morgue, c'est devenu une attraction, un but de visite. Pour les Parisiens, mais pas seulement. Comme toujours, il y a du monde. Des badauds. Le spectacle est étrange. Il est morbide. Il ne cesse d'attirer. Derrière ces grandes vitres, étendues sur la dalle, comme on dit, il y a les corps des noyés, les repêchés de la Seine. Il y a ces corps qu'on expose au public, pour qu'on puisse les reconnaître. Le commissaire Claude vient d'arriver. Un médecin en blouse blanche lui désigne la patère. « Votre blouse, commissaire !» Ce médecin, c'est un médecin légiste. Et ce n'est pas le premier venu. Il s'appelle Ambroise Tardieu. C'est le doyen de la faculté de médecine de Paris. Il enseigne la médecine légale et il a des centaines... Non, il a des milliers d'autopsies derrière lui. D'habitude, il se voit, le commissaire et lui, autour d'un cadavre. Je veux dire, pour un dossier, avec une enquête. Mais aujourd'hui, le commissaire Claude n'est pas là pour une enquête. Enfin, pas vraiment. Il vient avec ce qui lui occupe l'esprit, encore et toujours. Et le médecin légiste réfléchit. Il vient de faire poser un noyer sur la table d'autopsie. Il a saisi son scalpel, fait une incision, longue, du bas de l'abdomen jusqu'en haut de la poitrine. Il réfléchit, tout haut. « Pour répondre à votre question en des termes simples, commissaire, je vous dirais, oui, les signes d'un empoisonnement peuvent parfaitement ressembler à ceux que donnent d'autres affections, aux symptômes d'une maladie naturelle, oui. » Il réfléchit encore. « Si j'osais, commissaire, je me poserais une autre question, mais c'est sans doute votre domaine et pas le mien, mais... Pour qu'il y ait empoisonnement, je veux dire, empoisonnement volontaire, il faudrait qu'il y ait un mobile, comme on dit, non? Est-ce qu'il a un mobile, votre empoisonneur ou votre empoisonneuse? Un mobile? Est-ce que le docteur Couty de la Pommeraye aurait eu une raison de tuer sa belle-mère? Claude a envie de sourire. Voilà qu'il pense brusquement à sa propre belle-mère. Feu, sa belle-mère. Disparue depuis plusieurs années, morte de sa belle mort, comme on dit. Le commissaire, en se posant la question, en la formulant, se dit qu'il s'adonne à un jeu étrange. Mais que cherche-t-il? Pourquoi faut-il qu'il perde son temps avec ça? Pourtant, il y a ce soupçon diffus, cette pensée qui ne le quitte pas. Il perd son temps avec ça et c'est le procureur impérial qui va le lui rappeler. Il est convoqué quelques jours plus tard. Nous sommes au palais de justice, sur l'île de la Cité, dans le cabinet du procureur impérial. « Savez-vous qui j'ai rencontré hier, commissaire ?» Le procureur laisse sa question suspens. Bien sûr qu'il n'en sait rien, le commissaire. C'est sa manière au procureur impérial de lui faire comprendre qui va diriger leur entretien. « Le notaire de Madame Dubézy, de feu Madame Dubézy. » Il m'a parlé de la petite entrevue que vous avez eue ensemble. Ce n'était qu'un tout petit mot, trois fois rien. Le commissaire et le notaire s'était croisé à la Société Saint-Thomas. Claude avait demandé au notaire, enfin, il était parvenu à faire glisser la conversation sur les coutils de la Pommeraye, doucement. Et il avait sans doute dit ou demandé, il ne sait plus, il a fait un beau mariage, coutils de la Pommeraye. Ou est-ce qu'il a fait un beau mariage, coutils de la Pommeraye? Qu'est-ce qu'il espérait? Que le notaire s'étende sur l'état du patrimoine des coutils? Sur celui de la belle-mère, peut-être? Oui, vraiment. Le commissaire se laisse emporter par ses obsessions. On dirait que plus rien ne peut le retenir. Mais jusqu'où il va aller? Il va déjà trop loin, et il le sait. Oui, et le procureur impérial est en train de le lui rappeler, et fermement. Vous dirigez la sûreté, d'accord, mais évitez donc de porter vos soupçons n'importe où. De la Pommeraye, un homme dans sa position, pour si peu. Ses affaires vont bien. C'est un médecin très en vue, alors qu'aurait-il besoin de plus? Pour précipiter un héritage? Et si vous alliez remuer les bas-fonds de Paris, plutôt, du côté des Halles, ou du côté de la rue Mouffetard? Et puis le procureur hausse les épaules. Il change de ton. On dirait qu'il s'inquiète pour lui.
Allons, commissaire, vous êtes fatigué, cher ami. Vous savez que la mode est au bain. On ne parle que de Dieppe et de ses bains de mer en ce moment. Alors, si vous alliez vous reposer un petit peu, avec votre dame.
Le temps a passé. Plus de 2 ans. Nous sommes en 1863, au mois de novembre. Le commissaire Claude y pense encore, à son docteur, à Edmond Couty de la Pommeraye. Parfois. Il l'a encore croisé, lui et sa femme. Ils mènent grand train, les La Pommeraye. Ils vivent dans le luxe, oui. Le comte Couty de la Pommeraye est devenu l'un des premiers médecins de Paris. Ils les ont revus, avec son épouse, oui. Et il l'a revu une autre fois, avec une autre femme. Il l'a vu en charmante compagnie. Comme on dit. Il s'était fait un signe de connivence. Nous sommes le 21 novembre. Le ciel est bas et gris. Il pleut sans arrêt depuis l'aube. Peut-être pleut-il depuis la veille ou depuis la nuit. Ça n'arrête pas de couler. Nous sommes rue de Jérusalem, dans les bureaux de la sûreté. Le commissaire, Monsieur Claude, est debout devant la fenêtre. Son regard se perd devant l'eau qui ruisselle. On frappe à la porte. Le préposé fait entrer quelqu'un. C'est un agent d'une compagnie d'assurance. La compagnie du Phénix. L'homme vient sans certitude. Il veut, disons, partager ses doutes. Ses doutes? Sur un sinistre, comme on dit dans les compagnies d'assurance. Un sinistre? Une dame qui avait pris une assurance sur la vie et qui vient de mourir. Enfin, quelques jours plus tôt. 15 jours plus tôt environ. Une assurance vie prise par une dame, c'est ça? Ah bon? Et la dame meurt. Et il y a un capital à verser à un bénéficiaire, ou à plusieurs bénéficiaires, c'est ça? Oui. Eh bien, c'est bien le service qu'une compagnie comme la vôtre doit offrir, non? En quoi est-ce que ça nous concerne, nous? Alors quoi? Est-ce qu'il avait réussi à le contenir, à le maîtriser, son penchant obsessionnel, pour le soupçon? Mais cette dame était très bien portante, commissaire. Le médecin de notre compagnie l'a examinée et elle était en très bonne santé.
Oui, elle est tombée malade, brusquement. Alors qu'est-ce que vous voulez, hein? Ce sont des choses qui arrivent, n'est-ce pas?
Le commissaire n'a pas l'air de les porter dans son cœur, les compagnies d'assurance et leurs agents. Il ne lui avait pas laissé le temps de finir. Monsieur Claude, l'homme qui vivait du soupçon, qui respirait dans le soupçon, où est-il? Il parvient à mieux maîtriser sa nature, le commissaire. Il a suivi la vie du procureur impérial, tiens. Il y est allé. Oh, pas à Dieppe, non. Ça, ce n'est pas dans ses moyens de petit policier, mais il s'est changé les idées, oui. Et il a repris la chasse aux criminels. Les vrais, ceux des bas-fonds. Le commissaire ne lui a pas laissé le temps de finir à l'agent de la compagnie du Phénix. L'agent avait pourtant encore quelques précisions à lui donner. Et pas des moindres. Des précisions qui auraient pu le faire changer d'avis, le commissaire Claude. Peut-être. Cette affaire, ce peu de choses, se rappelle pourtant au commissaire, quelques jours plus tard. Nous sommes toujours rue de Jérusalem, dans les bureaux de la sûreté. Le préposé dépose un billet plié et cacheté à la cire, rouge. Claude décachette. Il ouvre. C'est le préfet de police. La missive est brève, très brève. Le préfet souhaite le voir au plus vite, et si c'est possible, le jour même. Dans une affaire qui ne peut attendre. Le commissaire laisse tout tomber, enfile son pardessus, prend son haut de forme. Et le voici quelques minutes plus tard, dans le cabinet du préfet. Le préfet, il a l'air tendu. Il ne l'invite pas à s'asseoir, mais il lui fait signe d'approcher. Sur son bureau, il y a une lettre. Il la glisse vers lui. « Je pense que ceci va vous intéresser, commissaire. » Claude parcourt la lettre. Une écriture fine, vigoureuse. Il lit ceci. « Ma belle-sœur s'est portée malade depuis plusieurs semaines. Elle avait conclu un important contrat d'assurance vie avec pour bénéficiaire ses 3 enfants, nous avait-elle dit, pour un capital de 500 000 francs or. Mais la compagnie d'assurance nous apprend aujourd'hui qu'il n'en est rien, que les bénéficiaires désignés ne sont pas les enfants de ma sœur, qu'il n'y a qu'un bénéficiaire, l'amant de celle-ci. » Le commissaire s'arrête. Son regard s'immobilise, brusquement. Il relit. Il n'en revient pas. Il lève les yeux vers le préfet. Il se regarde. Edmond Couty de la Pommeraye. Monsieur Claude songe. Il se rappelle. Est-ce qu'il n'a pas croisé le docteur en charmante compagnie? Ils avaient eu un geste ou un regard de connivence. Cette charmante compagnie, oui, c'est sans doute elle. Elle s'appelle Julie Testu, veuve de Pau. Son mari était peintre. Son corps a été retrouvé chez elle, rue Bonaparte. Alors voilà, lui, Monsieur Claude, l'homme, le policier, habité par le soupçon. Eh bien finalement, il y est. Est-ce qu'il ne sent pas les âmes, Monsieur Claude? Il ne s'était pas trompé. Enfin peut-être. Couty de la Pommeraye, bénéficiaire de la police d'assurance. Eh bien, le voilà, le mobile. Alors il s'en va. Le préfet le rappelle alors qu'il ouvre la porte. Commissaire, un petit conseil. Faites ça au mieux et dans la discrétion. Et n'oubliez pas que vous aurez affaire au procureur impérial.
La Pommeraye.
Un crime, une histoire. 36 Quai des Orfèvres.
Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui dans Un crime, une histoire, 36 Quai des Orfèvres, nous cheminons aux côtés du commissaire Claude, le chef de la sûreté parisienne. Ce policier est obsédé par le personnage d'un jeune médecin très ambitieux qu'il croit capable du pire. Moqué, rappelé à l'ordre, il finit par lâcher prise. Jusqu'à ce jour de 1863 où on lui signale que son docteur pourrait être impliqué dans une arnaque à la police d'assurance, une assurance vie. Et peut-être plus. Et si le commissaire avait vu juste? Et si Edmond Couty était capable du pire? Le commissaire Claude repasse par la rue de Jérusalem pour emmener un inspecteur avec lui. Direction, le domicile de la défunte, rue Bonaparte. Cette idée ne le quitte pas, Edmond Couty, son amant, le bénéficiaire de la police d'assurance. Les deux hommes partent à pied. Ils prennent par le quai des Orfèvres, traversent la Seine au pont Neuf, ils prennent la rue Dauphine, tout droit, la rue de Bussy, toujours tout droit. C'est son Paris, au commissaire. Le Paris épargné par Haussmann, le vieux Paris, avec ses façades hautes, mais sans fioritures. Ils arrivent sur le boulevard Saint-Germain, et le boulevard est en travaux, et avec la pluie, c'est un champ de boue, comme une bonne partie de la ville quand il pleut. Ils passent sur des planches posées sur le sol, brinque-ballante. Ils n'ont plus qu'à traverser. Et voilà, ils y sont, rue Bonaparte. Ils arrivent devant le numéro 3. C'est un petit logement, au 2e étage. Tout est silencieux, tout est sombre. Le commissaire se rend dans la chambre, sur le lieu du crime. Le crime du docteur Couty de la Pommeraye. Bien sûr, il en est certain. Près du lit, devant le lit, sur le plancher, il y a des taches. Est-ce qu'on n'a pas lavé? On dirait oui. Ce sont sans doute des vomissures. Claude se relève. L'inspecteur vient de mettre au jour une liasse de papier.
Commissaire, vous devriez voir ça.
C'est une série d'ordonnances pour des préparations. Le commissaire les examine une à une. Elles sont signées. Elles ne sont pas signées par Couty, mais par un docteur Godinot.
Mais il y a quelque chose d'autre. Aucune de ces ordonnances n'a été exécutée.
Inspecteur, allez me chercher ce docteur Godineau.
La victime n'a pas pris les médicaments que le médecin lui a prescrits. Pourquoi ? Le commissaire est dans ses pensées. Non, pas dans les siennes. Dans celle de Couty de la Pommeraye. Il essaie de comprendre. Il entend des pas dans l'escalier. C'est l'inspecteur qui revient avec le docteur Godineau. Il ne comprend pas, Godineau. Il est embarrassé. Il est terriblement embarrassé.
C'est un refroidissement, commissaire, un simple refroidissement. Cela se soigne de la façon la plus ordinaire, mais je crois savoir que monsieur, l'ami de madame est homéopathe. Alors il aura peut-être préféré lui faire prendre sa propre médication, peut-être, non ?
Le soir tombe. Ils n'y verront bientôt plus rien, même avec des chandelles. Monsieur Claude remercie le docteur. Il reste une chose à faire. Et il vaut mieux le faire tout de suite, on ne sait jamais. Il désigne les planches devant le lit avec des traces d'on ne sait quoi, mais qui pourraient peut-être être intéressantes.
« Inspecteur, arrangez-vous, enlevez-moi ces planches, ça pourra toujours intéresser Tardieu. »
Le commissaire et l'inspecteur reprennent la direction de l'île de la Cité. L'inspecteur avec ses lattes du plancher dans les bras. Claude se rend quai du marché neuf à la morgue. Il pleut encore. Il se presse. Il rejoint le médecin légiste. Il fait presque nuit. Le corps a été exhumé. Il est sur la table d'autopsie. La pièce est éclairée par des lanternes. Les organes, l'estomac, les viscères sont dans des bocaux. Le médecin a terminé et il livre ses résultats. Et ça paraît sans appel.
« Rien, commissaire. J'ai vu beaucoup de cadavres. Ces organes sont superbes. »
Il n'y a rien. L'examen de l'estomac, des viscères, ne révèle rien. Aucune substance qui aurait pu entraîner la mort. Aucune trace d'un poison quelconque. Est-ce qu'il s'est trompé, monsieur Claude ? Est-ce que depuis le début, il a été trompé par son intuition, par sa manie du soupçon ? Mais Tardieu n'a pas tout dit.
Nous allons quand même tenter quelque chose.
Il veut tenter une expérience. Mais ça va prendre un peu de temps. Le temps de quelques préparatifs. Le lendemain, le commissaire est de nouveau à la morgue. Dans une courette avec Tardieu. Et ça tombe bien, il ne pleut plus. Ça s'est arrêté de couler. Les assistants du médecin légiste ont amené un chien de belle taille. Ils l'ont attaché, ils l'immobilisent.
« Je suis désolé de devoir vous faire subir ce genre d'expérience, croyez-le bien, commissaire. »
L'un des deux assistants a entaillé la cuisse du chien, avec un couteau, un scalpel. Avec une sorte de palette, un instrument métallique plat et large, Tardieu vient saisir de la matière verdâtre ou brunâtre dans un bocal.
« Commissaire, j'ai fait un prélèvement de matière dans l'estomac et dans les viscères de la victime. »
Tardieu porte sa palette dans la plaie. Et voilà que, brusquement, le commissaire se souvient. Les gestes d'Edmond Couty lui reviennent en mémoire, lorsqu'il l'avait rencontré pour la première fois. Le chien renversé, sous le fiacre, rue de Nevers. Tardieu fait presque les mêmes gestes. Il applique la matière sur la plaie, longuement, quelques secondes. Voilà. Et maintenant ?
Alors maintenant, il reste à attendre et à observer.
Tardieu a désigné une chaise au commissaire. Ils s'assoient, ils attendent, mais le temps passe. Le temps passe et il ne se passe rien. Qu'est-ce qu'il attend, Tardieu ?
Si votre morte a ingéré un poison, il devrait y avoir un résidu dans les matières que j'ai prélevées, vous comprenez ? Ce n'est pas parce que je n'ai rien trouvé qu'il n'y a rien.
Comme le commissaire semble en attendre un peu plus, Tardieu poursuit.
Prenez l'arsenic, commissaire. Il s'agit d'un poison d'origine minérale. Il laisse des traces évidentes, mais il n'en est pas de même d'un poison d'origine végétale. Il semble que le poison d'origine végétale ne laisse pas de traces. Subtil, n'est-ce pas ?
Les deux hommes attendent. Les minutes passent et toujours rien. Tardieu se lève, il soupire.
Peut-être faut-il encore attendre. Oh, le mieux serait que je vous fasse chercher s'il y a quelque chose.
Au cours de la nuit, l'animal commence à s'agiter. Il est nerveux et il est pris de tremblements. Il tourne sur lui-même. Les battements de son cœur s'affolent, puis ralentissent. Tardieu a fait réveiller le commissaire Claude. Il pense que ça y est,
On dirait que le chien ne passera pas la nuit. Mais voilà qu'il reprend des forces. Oui, il en réchappe. Claude est à bout. Il y a cru. Ils y ont cru tous les deux. Tardieu essaie de comprendre.
L'animal a une réaction très vive, c'est certain, mais il a survécu.
Il est désolé. Mais comment en conclure autre chose ?
Oh, c'est pas avec ça que vous allez démontrer que votre dame est morte empoisonnée, n'est-ce pas ?
Tardieu y pense. Si l'expérience ne conduit pas à la mort de l'animal, comment un jury pourrait-il admettre qu'elle est morte empoisonnée ? L'animal a manifestement souffert, mais il n'est pas mort. Il y pense encore. Quelques heures ont passé, et oui, il fait une nouvelle fois chercher le commissaire. Il est fébrile. Il rédige quelques mots à la hâte sur un feuillet, le plie, le confie à son assistant.
« Faites-le venir au plus vite !»
Et s'il n'avait pas tout essayé ? Tardieu fait chercher un autre chien, même race, même corpulence. Il faut que les conditions de cette nouvelle expérience soient parfaitement les mêmes. Le chef de la sûreté est arrivé. Il est prêt à tout. Il a confiance. Ah oui, ça, il a confiance en Tardieu. Il se laisse porter. On verra bien. Il désigne les planches, les lattes du plancher, retirées rue Bonaparte.
« Je suis venu avec ce que vous avez demandé, professeur. »
Et Tardieu reproduit la même expérience. Presque la même. La matière qu'il va appliquer sur la plaie, il l'a prélevée en grattant soigneusement chacune des planches. Il l'applique sur une plaie, pendant quelques secondes, voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Et cette fois, tout va plus vite. Enfin, plusieurs heures s'écoulent tout de même. Et puis le chien est pris des mêmes tremblements. Les battements du cœur s'accélèrent, il vomit. Les battements du cœur diminuent, il s'affaiblit et il meurt. Au commissaire qui l'interroge, le médecin légiste donne une explication assez claire. Les matières retrouvées sur les planches sont des matières qui contiennent sans doute beaucoup plus de poison. C'est précisément la raison pour laquelle l'estomac n'a pu les retenir toutes. Vous comprenez, commissaire ? Et il conclut. Je vous parlais hier d'un poison d'origine végétale, commissaire. J'ai un nom pour vous. La digitaline. Monsieur Claude peut respirer. Non, il ne s'est pas trompé. Et oui, il doit se laisser aller à ses soupçons, à tous ses soupçons, quoi qu'en dise sa femme. Quelques heures plus tard, accompagné de deux inspecteurs, il investit le domicile du docteur Couty de la Pommeraye. Il y a des médicaments et des fioles de toutes sortes. Et il y en a une que Monsieur Claude finit par remarquer. Un flacon de digitaline. Edmond Couty de la Pommeraye est arrêté. Quelques jours plus tard, le commissaire Claude ordonne l'exhumation du corps de Madame Dubézy, sa belle-mère. Edmond Couty de la Pommeraye est renvoyé devant la cour d'assises de Paris quelques mois plus tard. Il nie. Jusqu'au bout, il nie. Mais les expériences menées par Ambroise Tardieu achèvent de convaincre les jurés. Edmond Couty de la Pommeraye est condamné à mort. Le petit médecin de province, devenu premier médecin de Paris, est exécuté, guillotiné, le 9 juin 1864, devant la prison de la Roquette, près du cimetière du Père-Lachaise. Jérôme de Brouwer, vous enseignez l'histoire du droit à l'ULB. Bonjour.
Bonjour Jean-Louis.
Alors dans ce dossier, nous avons Monsieur Claude, le chef de la sûreté, qui a une première difficulté, c'est d'être face à un homme du monde dans son enquête. Et puis, deuxième problématique pour lui, c'est d'être face à une victime dont on ne parvient pas à déterminer de quoi elle est réellement morte.
Effectivement. Alors bon, la personnalité de Couty de la Pommeraye, c'est une chose, mais enfin, ouais. C'est sans doute un obstacle de moindre importance que celle de déterminer, que celui de déterminer de quoi est décédée la victime. La veuve de Pau et éventuellement la belle-mère.
Évidemment. Hein,
qui est peut-être morte aussi sous la main de Couty de la Pommeraye. Alors, la difficulté, c'est d'identifier de quoi elle est morte. Elle serait morte d'un poison, d'un empoisonnement.
Alors là, on a recours à un médecin légiste, mais qui n'est pas n'importe qui non plus, Ambroise Tardieu.
Ce n'est pas n'importe qui et il va parvenir à isoler l'alcaloïde C'est-à-dire la molécule végétale qui constitue le poison en question.
Ça, c'est exceptionnel pour l'époque.
Oui, c'est assez exceptionnel, mais ça a déjà eu lieu. Ça a déjà eu lieu, et justement, ça a eu lieu en Belgique.
Chez nous.
C'est un chimiste assez important qui s'appelle Stas, qui va parvenir à identifier l'alcaloïde que constitue la nicotine dans une affaire célèbre, l'empoisonnement, qui aurait été commis par le comte de Beaucarmé sur son beau-frère. Et Stas va utiliser, va isoler ce poison végétal, la nicotine, et va utiliser l'expérimentation animale sur des chiens, comme dans l'histoire que vous venez de faire.
Et c'est ce qui a permis, évidemment, de révéler la raison pour laquelle les personnes étaient décédées. Merci en tout cas, Jérôme de Brouwer, et rendez-vous très bientôt à la même adresse, 36 Quai des Orfèvres.
La première.
Un crime, une histoire, 36 Quai des Orfèvres.
Jean-Louis Lahaye.